Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, désormais disponible en version filmée sur Journal du Golf TV, canal 187 sur Free et 193 sur Bouygues, et bientôt, très bientôt sur Orange. On donne le canal.
Surprise. Allez, ouais, alors on donne tout.
Non, on donne pas le canal, mais ça va arriver très très vite. Aux alentours du Master, on sera sur Orange. Cette semaine, nous ferons un bilan de la première partie de saison du clan français avec quelques sons, quelques interviews de Mathieu Pavon, enfin quelques paroles de Mathieu Pavon. Nous reviendrons évidemment sur ce sommet aux Bahamas dont on ne sait pas grand-chose, mais bon, on a le meilleur d'entre nous pour en parler, donc ça devrait aller. Et on fera évidemment une page sur le LPGA avec le Ford Championship cette semaine de 23h à 2h de jeudi à dimanche sur Journal du Golf TV. Et avec moi pour animer cette émission,
le meilleur d'entre nous,
Benjamin Cadieux de Journal du Golf.
Salut Arnaud.
Salut Benjamin. Et le meilleur d'entre nous, celui qui sait tout des coulisses du golf mondial, Sébastien Audoux. Bonjour Sébastien.
Salut.
Alors, avant d'y revenir dans ces coulisses, Romain Lefebvre est aux États-Unis pour interviewer Mathieu Pavon en vue d'une couverture de l'équipe magazine. Je crois qu'on dit le mag l'équipe, hein, ou
ouais,
le magazine l'équipe. Enfin, l'équipe magazine, qui est
pour avoir des soucis à dire des choses comme pareil.
Le supplément de l'équipe tous les samedis, voilà, et le 6 avril, juste avant le Masters, Mathieu Pavon fera la couve. Interviewé par Romain Lefebvre, évidemment de magnifiques photos. Romain Lefebvre est aux États-Unis avec lui et il a eu la gentillesse de nous envoyer quelques sons et on va commencer avec un premier bilan de sa saison sur le PGA Tour, surtout savoir si cette cinquième place à Singapour dimanche lui avait redonné un peu de confiance. On écoute Mathieu.
Non, pas plus de confiance. La confiance, elle est intacte. Mmh. Cognizant, je finis 28e, je crois, mais je fais double au dernier. Si je fais, je manque pas mon coup de bois 3 et je le mets sur le green, je fais birdie, je suis un top 10.
Ouais.
Après, Bayil, semaine compliquée, je perds mon grand-père cette semaine-là. Donc, il a fallu la digérer. Players, mon grand-père est enterré le jeudi du Players, donc encore une fois, il a fallu le digérer. Donc, malheureusement, c'est les aléas de la vie, on choisit pas quand ces choses-là, elles arrivent. Donc voilà, j'essaie de les gérer au mieux, mais ça a aucunement entaché mon mental et ma confiance en moi. Je sais que je fais très bien les choses depuis un bon moment et je suis ma ligne directrice, peu importe les résultats que je peux avoir sur certains tournois.
Messieurs, cinquième à Singapour quand même, il devait jouer le Valspar. Finalement, on peut penser qu'on a su avoir les bons arguments pour l'inviter là-bas parce qu'il fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde. Il arrive, il fait 5e.
C'est rassurant.
C'est quand même aussi impressionnant, non,
enfin, ouais,
en tout cas, il a pris une nouvelle dimension. Il le confirme semaine après semaine.
Moi, le mot qui vient, c'est rassurant parce qu'évidemment, on est à 2 semaines du Masters et perso, je pense qu'à ça. Bon, le Players est passé. Ça s'est pas bien passé. On sait pourquoi désormais il avait un peu la tête ailleurs. En plus de sa nouvelle vie aux USA qui est en train de se mettre en place au niveau des ménagements et tout, ça faisait quand même beaucoup de charge mentale, je pense, pour un seul joueur. Et là, le voir aux avant-postes à Singapour, en vue du premier majeur de la saison et puis du PGA Championship qui va quand même vivre et venir hyper vite, c'est méga rassurant sur le fond de jeu, parce qu'il fallait aussi s'enquiller le voyage Floride-Singapour.
Sébastien ?
Oui, je rejoins Benjamin. Le vrai début de la saison pour beaucoup et pour la plupart des fans de golf, ça reste le Masters. Et après, c'est vrai qu'il y a un enchaînement non-stop avec un majeur tous les mois. Donc c'est là qu'il va falloir être en forme. Malgré tout, je trouve très bien ce qu'il dit sur la confiance. Hormis Tiger Woods et un peu en ce moment Scottie Scheffler, la vie d'un golfeur de très haut niveau dans les meilleurs du monde, c'est aussi ils font pas top 10 toutes les semaines.
Peaks and valleys.
Donc il faut avoir, il va y avoir des passages de moins bons, des moments de chauffe dont il faut essayer de profiter. Et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on a l'impression que la régularité est quand même globalement là. Il y a peu de contre-performances. Et effectivement, ça, pour la suite de la saison, c'est rassurant, d'autant que maintenant, ce qui va compter pour lui, c'est quand même avant tout de faire ces résultats-là, d'enchaîner des top 10. C'est ça qui va être très important pour solidifier sa place dans le top niveau mondial.
Accessoirement, il passe 24e mondial, meilleur classement en carrière. Comme quoi, le DP World Tour, de temps en temps, on peut encore marquer quelques points et encore progresser au classement mondial, Sébastien.
Oui, au-delà du classement mondial, je trouve que le DP World Tour par aussi les performances telles que celles de Mathieu Pavon qui vient gagner vite à Torrey Pines impressionne tout le monde. Hein. Moi qui écoute tous les podcasts de nos confrères américains, toutes les semaines, j'ai l'impression qu'ils parlent de plus en plus de ce qui se passe sur le DP World Tour. On voit que ça a un vrai impact, ce qui s'est passé là, les 10 cartes distribuées par le DP World Tour pour aller sur le PGA Tour. On a l'impression qu'ils redécouvrent le fait que de l'autre côté de l'Atlantique,
il y a des gens qui jouent au golf.
Il y a des gens qui jouent au golf, et pas trop mal, et même très bien. Et on les voit très enthousiastes aujourd'hui sur ce qui se passe sur le DP World Tour. On a beaucoup dit qu'effectivement, dans toutes les tractations dont on reparlera, c'était un peu les oubliés, mais en tout cas, il y a de plus en plus de bons golfeurs sur le DP World Tour ou qui émergent du DP World Tour vers le PGA Tour. Et ça aussi, c'est très positif.
Et même sur le Challenge Tour, il y a Alexander Levy hein, qu'on a essayé d'avoir pour cette émission. On l'aura bientôt, qui s'est confié à nos confrères de Golf Planet, à Lionel Vella, une nouvelle fois, et qui disait que même sur le Challenge Tour, le niveau était très très élevé. Donc voilà, l'avenir du golf européen, en tout cas, même si ses dirigeants n'ont pas été au top ces dernières années, en tout cas, niveau joueur et niveau densité, c'est pas mal du tout. Et Mathieu Pavon le prouve quasiment chaque semaine, en tout cas sur le PGA Tour. Et justement, Romain Lefebvre lui a demandé à Mathieu comment il avait vécu toute cette période depuis 4-5 mois, en tout cas depuis l'Espagne, et où ses résultats ont explosé et sa carrière aussi.
Ouais, je t'avoue que je regarde que devant moi, ouais. Pas vraiment derrière. Ce qui est fait est fait. Donc voilà, je suis pas là à repenser au passé, à ce qui a été fait ou quoi. Je pense surtout à ce que je vais faire aujourd'hui et ce que je dois faire demain pour justement avoir d'autres moments comme ça. Après, c'est sûr que l'ascension a été fulgurante. Il y a eu des points clés, que ce soit ma première victoire à Madrid, que ce soit derrière ces 4 birdies pour finir à la race Dubaï. C'est là où on se dit, voilà, ce pote au 18 d'un mètre 20 à Dubaï, ça, c'est le pote qui a probablement changé ma carrière. Donc c'est assez rigolo de voir comment tout ce dur travail et cette part aussi de chance et d'opportunité saisie a fait à un moment donné basculer ma carrière.
On regarde devant, on regarde pas derrière, là aussi c'est voilà, il parle comme un 24e mondial, Benjamin.
Ouais, c'est ce qu'il est. D'ailleurs, le 24e mondial, c'est le deuxième meilleur français de l'histoire, côté masculin, on précise. Non, c'est tout, je reste sur ce mot rassurant, il faut que ça se mette en place, parce que le fait qu'il regarde pas derrière, ça veut dire qu'il regarde peut-être encore plus haut, en tout cas on l'espère, et de toute façon on va être, même si on va pas tout miser sur les deux majeurs d'avril et de mai, on va quand même aussi être fixé sur sa capacité ou pas à passer encore le step du dessus, et ça passe uniquement par les majeurs, parce qu'à la fin d'une carrière c'est ce qu'on regarde, quoi.
Sébastien.
Oui, alors je suis d'accord sur l'aspect majeur. Malgré tout, bon, s'il fait 4 majeurs moyens cette année, ça va pas remettre en cause tout ce qu'il a fait pour autant.
Non, il a la carte pour 2 ans.
Et toute son ascension non plus. On peut tout à fait. C'est un peu le problème du golf, hein, c'est qu'indépendamment de l'ampleur du tournoi, vous pouvez avoir une très bonne semaine sur un petit tournoi et puis vous le gagnez et ça change pas votre vie. Ou alors vous pouvez avoir une bonne semaine comme Sean Michael ou
Ben Curtis.
Voilà. Et là, bon, ça change votre vie et ça fait pas forcément de vous un top joueur mondial pour autant, donc voilà, donc moi je remettrai pas non plus, enfin je me refuse à mettre trop de pression sur les 4 échéances de majeur, même si évidemment on l'attend beaucoup là-dessus forcément. Mais après, sur le fait de pas regarder derrière lui, oui, évidemment c'est un athlète de top niveau, il va pas se gargariser pendant des mois de ce qu'il a fait à Torrey Pines. Il regarde devant, il a bien raison, d'autant que devant il y a de bien belles choses quand même.
Allez, on écoute Mathieu Pavon une dernière fois. Cette fois, Romain Lefebvre lui a demandé de revenir sur cette adaptation express sur le PGA Tour.
Moi, je trouve ça beaucoup plus facile d'arriver comme ça en tant que rookie qu'être déjà installé, parce qu'on n'a aucune attente. On découvre de semaine en semaine, que ce soit sur les différents parcours. Déjà, on est plus attentif sur les reconnaissances comparé au Tour européen où ça fait 7-8 fois que je joue les mêmes parcours. Donc on est plus attentif, plus concentré, il n'y a pas tous les copains autour qu'on peut retrouver chaque semaine, donc on est vraiment centré sur soi-même et le travail qu'on doit accomplir de jour en jour. Donc pour moi c'est presque plus facile, entre guillemets, d'arriver comme ça sur un nouveau circuit où on connaît pas tous les joueurs forcément, où on n'est pas pote avec tout le monde, où au final on se retrouve à être centré sur soi-même et pas vraiment avoir d'attente en termes de résultats, parce que c'est vraiment un nouveau circuit qu'on va découvrir.
Voilà, Mathieu Pavon au micro de Romain Lefebvre. Vous pourrez retrouver cette interview en intégralité donc le 6 avril dans le magazine de l'équipe. C'est intéressant cette façon de voir les choses, que quand on est rookie, on est tranquille et on n'a pas les potes sur le PGA Tour.
Ouais, c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est le confort du circuit européen dans lequel étaient aussi les joueurs français pendant des années. Ils le disaient d'eux-mêmes, leur coach le disait d'eux-mêmes, c'est qu'à la fin, ça ronronne un petit peu. On joue tout le temps les mêmes parcours, on retrouve les copains qui deviennent vite des amis proches à l'hôtel et forcément vous jouez les parties de reconnaissance, souvent les parties de reconnaissance ensemble, même si certains Français essayaient de quitter un petit peu cette bulle-là, mais bon, au final, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'aller vers ses affinités et ce petit confort-là. Donc c'est bien enfin de voir des joueurs s'installer, donc là comme c'est le cas pour Mathieu Pavon en Floride, et de s'installer sur le PGA Tour au moins pour 2 ans, puisqu'il a gagné, quoi.
Sébastien. Oui, ça c'est effectivement quelque chose dont on a beaucoup parlé par le passé, et c'est forcément une découverte pour Mathieu Pavon. Sur le PGA Tour, on est plus le soir au restaurant avec son caddie, son coach, qu'avec d'autres joueurs, alors que ça se fait beaucoup plus sur le Tour européen. Et ça, c'est un ajustement qui était difficile pour certains joueurs arrivant du Tour européen.
Nicolas Colsart nous l'avait longuement raconté dans le Journal du Golf en 2012 ou 2013.
Allez, après, PGA Tour, les joueurs voyagent en famille puisqu'on reste très souvent dans le même pays. Donc, alors que le Tour européen, vous le voyez encore le week-end dernier, c'était à Singapour. Vous voyagez dans le monde entier avec PGA Tour. Vous pouvez facilement emmener votre compagne, voire même les enfants. La crèche est hyper bien organisée.
Non, mais vous n'avez pas d'amis. Enfin, si vous n'avez pas de famille.
Oui, parce que vous.
Le cas de Colsart à l'époque.
Voilà.
Il avait vraiment passé une année. Tous les mois, il nous racontait dans le Journal du Golf. Le pauvre, il vivait à l'enfer.
Oui, parce que le soir, les joueurs restent avec leur compagne, leurs enfants et leur staff propre.
Oui, c'est quelque chose qu'on voit. Moi, j'ai pas mal de souvenirs de British Open où vous allez le soir dans un restaurant, The Open Championship, pardon, parce que sinon le Royal Ancien va essayer de me trouver. M'assassiner.
On le salue au passage d'ailleurs.
Le soir au restaurant, c'était flagrant. Vous aviez des tables, vous voyez, il y a trois joueurs du Tour européen là, qui sont ensemble en train de dîner, et puis à côté, il y a Zach Johnson avec son coach et son cadet. Et voilà, donc on voyait bien la différence de philosophie. C'est aussi le prix du top niveau. Je dirais qu'avant tout, sur le PGA Tour, on n'est pas tellement là pour être copain-copain, on est avant tout là pour s'affronter et pour se battre les uns les autres. C'est d'ailleurs aussi quelque part, on le voit, ce qui a plu à beaucoup de joueurs lorsqu'ils sont arrivés sur le livre, de sortir justement de ce truc hyper compétitif où on est là un peu pour se faire la guerre les uns les autres et se retrouver dans une ambiance d'équipe plus détendue. D'un seul coup, on peut céder. Le PGA Tour, c'est effectivement,
la jungle.
On est seul
chacun
face aux
soi.
Autres.
Allez, le PGA Tour se disputait donc le Valspar Championship dimanche, remporté par Peter Malnati. Et notre chroniqueur Louis Cohen-Boyer revient sur cette victoire en chiffres, comme chaque semaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chronique analyse de victoire pour le Journal du Golf. Plongeons ensemble chaque semaine dans des explications factuelles et statistiques des victoires sur les circuits majeurs, le PGA Tour et l'European Tour. La semaine passée, c'était donc le Valspar Championship où Peter Malnati a remporté son deuxième succès 9 ans après son dernier succès. Surnommé Monsieur Tout le Monde par la presse américaine, ce joueur avec un look un petit peu atypique avec son bob a construit sa victoire principalement grâce à son putting sur les greens avec près de 8 points gagnés, mais on va y revenir. Fait notable depuis le début de la saison et depuis qu'on analyse les victoires des joueurs professionnels, c'est la première fois qu'un joueur a un vrai déficit sur un secteur du jeu. À moins de 50 mètres, Peter Malnati a perdu près d'un point par rapport au reste du champ. Parlons maintenant de la globalité de sa performance. Il a gagné 13,5 points sur le reste du champ, sur l'ensemble de sa performance. Sur tout ça, 25% ont été dus à ses mises en jeu, 20% grâce à ses fairs et près de 55% de sa performance au putting. Pour commencer, Peter a été extrêmement solide au départ, on vient de le dire. Il s'était placé à la 4e place sur ce secteur du jeu avec près de 3,5 points gagnés. Ensuite, sur son jeu de fer, Malnati a presque été aussi performant avec près de 3 points gagnés, ce qui le place à la 20e place sur les jeux de fer. C'est en grande partie, on l'a dit, grâce au putting que le joueur de l'Indiana a gagné. Il a gagné près de 8 points et demi sur ce secteur du jeu, on l'avait dit. Il avait gagné sur le reste du champ 13 points et demi sur la globalité de sa performance. C'est donc en grande partie grâce au putting. Merci d'avoir écouté Analyse de Victoire et restez avec nous pour la suite de ce podcast.
Merci Louis, évidemment info ça vaut tout. Enfin, en tout cas vous avez envie de rebondir sur Peter Malnati.
Non mais c'est vrai qu'il il faisait partie de ces joueurs un peu critiqués puisque il est membre du board, du policy board du PGA Tour qui a aujourd'hui un vrai pouvoir notamment dans les négociations avec, avec le PIF.
Il est rentré lundi du Bahamas.
Exactement, Bahamas. Et c'est vrai qu'il était quand même assez critiqué, il s'était un peu pris la tête avec Rory notamment parce que lui se faisait un peu la voix des joueurs qui sont un peu moins l'élite et qui quand même composent 80% du PGA Tour, il ne faut pas l'oublier, et souvent ils ont été un peu oubliés dans toutes ces négos.
C'était un golfeur de gauche.
Elle est très bonne. Je sais pas si ça existe, mais
sur le PGA Tour,
c'était la blague qui disait que sur le PGA Tour, avant il y avait un joueur du clan démocrate qui était Billy Andrade et c'était le seul. Donc je sais pas comment ça a évolué, mais
il est plus sur le PGA Tour.
Billy Andrade, non, il est un peu vieux aujourd'hui, mais non, donc voilà, donc je suis assez content rien que pour ça qu'il ait gagné, parce que quelque part il montre que c'est pas uniquement un faire-valoir qu'on a mis là aussi au board pour entre guillemets représenter les joueurs qui font pas partie de ce fameux top 30 dont on ne cesse de parler. Et au passage, le Valspar est un de mes tournois préférés du tour sur un parcours absolument exceptionnel à Copperhead, qui est vraiment pour moi un des meilleurs parcours de l'année en termes de challenge pour les joueurs, en termes de variété de coups à jouer. C'est vraiment un très beau tournoi qui passe forcément un peu inaperçu à cause des tournois signatures qui attirent beaucoup l'attention. Et là, c'est forcément un peu une semaine de creux, mais c'est vraiment un tournoi absolument magnifique.
Allez, pour clore ce chapitre PGA Tour, hein, ça se passe moins bien pour les autres Français avec Victor Pérez, centième malgré sa troisième place à Porto Rico, mais avec les signature events, forcément une troisième place à Porto Rico, ça vaut plus grand-chose. En tout cas, il est centième. Bon, c'est dans les clous, mais bon, quand même, 152e pour Martin Trainer et 184e pour Paul Barjon, qui a du mal pour son retour sur le PGA Tour. On passe au Tour européen. On a décidé de faire un petit bilan, hein, vu qu'on avait eu Mathieu Pavon et qu'on a fait un bilan avec Mathieu Pavon. Deux outsiders en tête dans le camp français, Hugo Cousseau et Frédéric Lacroix, 16e pour Cousseau, 20e pour Lacroix, qui sont là quasiment chaque semaine.
À 31 ans, Hugo Cousseau, c'est une belle surprise. En plus, c'est un joueur qu'on apprécie et à qui on aime parler de n'importe quel sujet, du matériel à sa carrière, à la vie sur le circuit, et ça c'est encore plus appréciable et se révéler après 30 ans aussi à l'image un petit peu de ce que fait Mathieu Pavon. On n'attendait pas forcément ces deux joueurs-là en priorité aux avant-postes et ça donne du sang neuf et Hugo Cousseau, il avait juste des tout petits soucis avec son driver en début de saison, ça a été vite réglé et maintenant il est sur la même lancée que l'an dernier. Il n'a pas faibli par rapport à sa montée du Challenge Tour et on sent que ça peut encore être mieux, quoi. C'est ça qui est rassurant. Donc pourquoi pas aller accrocher un des 10 tickets pour le PGA Tour à aller rejoindre Mathieu Pavon, quoi.
Antoine Rosner, hein, il en rêve évidemment du PGA Tour, 37e. David Ravetto, 47e, mais aussi 5e du Challenge Tour. Seulement 95e pour Julien Guerrier. J'ai oublié Romain Langa, 68e, qui a dit qu'il n'était pas inquiet, lui, pour son avenir sur le PGA Tour. Mais il est moins en forme qu'en fin de saison dernière, Romain Benjamin.
Ouais, c'est pas passé très très loin non plus l'an dernier. Ça se joue à quelques putts ou même, comme dit très bien Sébastien, que la bonne semaine tombe sur un tournoi un petit peu plus gros et qu'avec un adversaire finisse pas, on voit pas 64 l'audience. Ça se joue vraiment à pas grand chose pour Langas l'an dernier. Fallait peut-être aussi digérer cette déception là. Quand vous pouvez passer le step supérieur et que ça se fait pas.
Et que vous voyez Pavon qui est brillé et explosé au plus haut niveau.
Copain, même si vous êtes content pour lui, c'est votre partenaire d'entraînement que vous battez régulièrement. Et que surtout un Langas qui était un peu la star française chez les jeunes aussi dans les rangs juniors, alors que Mathieu Pavon était 50e du ranking amateur. Bah, ça pique aussi, faut peut-être aussi digérer, puis ça peut aller très très vite. Faut juste, comme tu le dis très bien Seb, que la bonne semaine tombe sur le bon tournoi, quoi.
Oui, sachant que c'est une des problématiques qu'on a sur le DP World Tour, plus qu'aux États-Unis, même si aux États-Unis, avec les signatures et ventes, on a recréé un peu, quelque part, un différentiel, alors qu'auparavant, globalement, à part les tournois, les opposites qui se jouaient pendant les majeurs ou les championnats du monde, bon, globalement, vous gagnez n'importe quelle semaine, c'était à peu près le même montant, le même nombre de points FedEx, et donc, bah voilà, ça récompensait toute bonne semaine jouée dans l'année, alors que sur le DP World Tour, il y a un écart absolument monumental d'un tournoi à l'autre, potentiellement, qui fait que c'est un peu injuste. Vous pouvez même gagner plusieurs tournois dans la saison si c'est des petits tournois co-sanctionnés, par exemple, comme les tournois avec le Sunshine Tour et tout ça. Bon, vous pouvez prendre très peu de points et ça vaut pas grand chose. Ou alors vous gagnez à Wentworth et là c'est magique, ça change votre vie. C'était une des difficultés pour les joueurs du DP World Tour qui est une vraie grosse difficulté, hein, qu'il ne faut pas du tout, du tout sous-estimer.
Alex Lévy nous l'avait confié, ou enfin, en tout cas on a parlé, il disait qu'ouais, il avait bien joué mais pas sur les bons tournois et que voilà, c'était
piqué au bon moment,
ouais, qu'il avait raté des cuts d'un point, notamment sur les gros tournois, et que voilà, c'est comme ça qu'il s'était retrouvé à perdre sa carte. Pour terminer le classement du Tour européen, Zhang Wongko 100e, Mike Lorenzo Vera 101e et Alex Lévy, justement, on vient d'en parler, 102e, tir groupé des Français. Petit détour par le LET avant d'aborder le LPGA avec Pauline Roussin-Bouchard 10e sur le LET, sur le Tour européen féminin. Elle a perdu sa carte du LPGA.
Elle rebondit bien,
elle nous a confié qu'elle avait retrouvé son jeu, un sujet que vous pouvez retrouver sur Journal du Golf TV. Bonne nouvelle pour Pauline, sa place elle est sur le LPGA plus que sur le LET, Benjamin.
Ouais, quand on la voit s'entraîner, l'avantage avec Pauline Roussin-Bouchard, c'est qu'elle met une grande partie de sa vie sur les réseaux sociaux et on la voit encore pousser de la fonte à la salle. Rien que voir la barre qu'elle se met sur les épaules pour faire des squats, mais j'ai mal partout, quoi. J'ai jamais fait un squat de ma vie, mais j'ai même pas envie d'essayer. Non, elle bosse dur et puis de l'avoir déjà top 10 de la saison, ça veut dire qu'elle a digéré, autant Romain Langas qu'il est resté sur le même étage qu'elle, elle est descendue d'un échelon et Dieu sait ce que la différence entre le LPGA et le LET en termes de dotation et de prestige. Évidemment, c'est bien digéré côté PRB, quoi.
Allez, donc on ouvre notre page LPGA. Bonne nouvelle, Benjamin, on vous retrouve jeudi au commentaire de 23h à 2h du matin. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout que Céline Boutier rejoue cette semaine. Troisième mondial toujours, même si la numéro 1 mondiale a changé. Céline reste numéro 3, on y reviendra. Et huitième au classement du LPGA, Céline Boutier, beaucoup plus compliqué en revanche pour les deux autres Françaises. 102e pour Perrine Delacour avec deux cuts passés sur 4 et 126e pour Agathe Lenné. Un cut passé sur 3 et un tournoi catastrophique pour Agathe la semaine dernière.
Ouais, elle a fini à la dernière place, 82-76 du côté de la Californie. Bah, un tournoi à oublier, comme ça arrive souvent. Donc, elle peut que mieux faire et ce qu'on lui souhaite en tout cas.
Allez, on regarde justement les highlights de ce tournoi concocté par Adrien Hardy.
Et bien d'autres. Perrine Delacour a raté le cut aussi. Tout comme Agathe Lenné.
Oh, c'est splendide. Oh, c'est splendide.
C'est rentré.
Bon, là, elle est bonne dans les bunkers. Allez.
Allez, ça peut y aller. Et ça y va. C'était vendredi, pardon.
Pas vu la balle.
Ah, est-ce qu'elle va grimper parce que ça monte sévère?
C'est parfait.
Allez, reviens, elle va prendre la pente et elle va revenir. Elle va prendre la pente et va revenir vers le drapeau. Quel coup de golf à ce moment-là de la partie. Quel coup de golf tout court, Eric. Ça vient bien, Eric. Et oui! Essayez d'éviter les deux bunkers déjà.
Est-ce qu'elle veut la faire rentrer celle-là?
Elle sort à droite, est-ce que le vent va la ramener? Allez, avance. Arrête-toi maintenant. Oh, quel coup. Eric, 11e victoire en carrière de Nelly Korda. Quelle performance mentale.
Terrible pour la pour
de l'Américaine.
Qui fait une carte magnifique.
Quelle performance mentale de l'Américaine qui s'est remis d'un finish bogey-bogey. Elle avait le tournoi en main. Elle s'est finalement retrouvée en mort subite. Et finalement... un coup de fer parfait plein green sur le 18 qui lui avait coûté si cher quelques minutes avant.
Un tournoi qui s'est terminé dimanche en play-off, commenté par vous-même et Eric Douanel, Benjamin, et une superbe victoire de Nelly Korda.
Elle est bluffante.
Qui prend la première place mondiale.
Elle est bluffante parce que déjà, le tournoi du côté de chez elle, du côté de Bradenton, le deuxième tournoi de la saison en Floride, elle termine birdie eagle après un dimanche qui était particulièrement mauvais selon ses standards, Nelly Korda. Donc elle provoque le play-off comme ça face à Lydia Ko pour lui mettre un coup de fer finalement au piqué et s'imposer. Elle zappe toute la tournée asiatique, elle revient, elle commence, le dimanche elle prend la tête du tournoi, on se dit elle va marcher sur le tournoi, elle fait son eagle au 14, elle enchaîne drive bois 3 à 4 mètres du trou sur ce long par 5 en montée à Palos Verdes. Et là on se dit bon, Nelly Korda est lancée, et là non, bogey 17, bogey 18, elle est dans un état de rage, on la voit sur le putting green mettre une soufflante à tout ce qui lui passe à moins de 3 mètres, son coach y compris, son coach qui l'a remis d'équerre, il a dit c'est bon là, t'as fini, tu repasses dans un état d'esprit positif, il a dit ok c'est bon, je me calme, et bah, on a tout de suite vu le résultat, on retourne sur le 18, coup de fer à 3 mètres, 4 mètres du drapeau et le putt plein trou, donc un exploit mental, un se remettre, je sais pas si t'as des exemples comme ça Sébastien,
il doit en avoir plein,
de joueurs qui ont implosé en toute fin de partie le dimanche pour finalement réussir à gagner le playoff comme a fait Nelly Korda par deux fois là,
alors pour le coup ça arrive souvent parce que le playoff va souvent être gagné pour celui qui ressurgit et qu'on n'attendait plus et qui pensait le tournoi perdu parce qu'après le momentum est tellement fort quand finalement on se retrouve en playoff.
Ryan O'Toole l'attendait depuis plus d'une heure au practice puisqu'elle revenait de l'arrière grâce à un 64-65 final, donc elle a eu le temps de se refroidir, c'est vrai.
Mais voilà, après honnêtement pour le LPGA Tour, c'est un début de saison un peu de rêve en termes de scénario. Il y a beaucoup de tournois qui se jouent en play-off, sur le fil. Nelly Korda, ça fait partie de ses joueurs bankable, on va pas se le cacher. Je pense qu'au sommet du LPGA, on est très content de l'avoir brillé autant. Donc pour l'instant, le scénario de ce début de saison du LPGA Tour est assez idéal. Exactement, juste ce qu'il faut.
Voilà. Ouais, on a Schmelzel qu'on connaissait pas, qui était pro depuis 2019, qui enchaîne 3 top 10, l'américaine. Savannah Grewal, la canadienne de 21 ans, qui était cadaillée par son frère en Chine, qui va faire l'épreuve de ping-pong à Paris, de tennis de table,
Benjamin.
De ping, je crois que les joueurs de ping-pong disent du ping. Donc,
oui, du ping, mais pas du
ping. Bon, bref, c'est pas le débat. Mais plein de nouvelles têtes, donc Schmelzel, Savannah Grewal et encore d'autres. Donc tout ça mêlé aux stars et à Boutier qui va revenir. Donc ça, c'est vraiment top. Et Korda, c'est vraiment... découvre pas, mais c'est bluffant. Quoi.
Deux tournois cette année, deux victoires.
Et la manière.
Même Tiger Woods et Scottie Scheffler peuvent pas en dire autant. Si.
Je sais pas si on peut tout de suite commencer à mettre Tiger Woods dans la conversation.
Et Scheffler vient de gagner deux tournois de suite dans le Players.
Ouais, mais ça fait pas 100% de victoire.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est très impressionnant et c'est très impressionnant. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à ajouter à part dire que, en plus, à chaque fois, le scénario est assez fou. Donc, c'est ça aussi qui en rajoute. Et je pense que pour le coup, on parlait de confiance un peu plus tôt. Je pense que là, au niveau de la confiance, Nelly Korda, elle est quand même au top du top. Elle va être très dangereuse dans les prochaines semaines.
Ouais, victoire en play-off hein, sur le deuxième tournoi de la saison aussi pour Nelly Korda.
Dixième
déjà,
victoire
quoi.
Plus les JO, donc on va dire qu'elle est à 11 tournois.
Et elle avait
11 victoires de très
haut
niveau.
Elle avait battu Lydia Ko qui venait de gagner la semaine d'avant le tournoi des champions. Donc ouais, très très beau début de saison pour Nelly Korda. Ben, on la suivra cette semaine
en Arizona.
Les 5 premières mondiales sont là, Benjamin, au Ford Championship. 23h, 2h tous les soirs sur Journal du Golf TV et l'équipe.fr. Et évidemment, ce week-end, sur le site de la fédération, sur FF Golf.
Avec Jade Scheffler au commentaire.
Avec Jade Scheffler au commentaire. Et qui nous rejoint de jeudi à dimanche. Et Sébastien Cacharberger, notre ami de la Fédération Française de Golf, qui prendra votre place à partir de vendredi. Alors, ce Ford Championship. Benjamin, vous avez quelques tuyaux, quelques infos pour nous ?
C'est un tournoi qu'on ne connaissait pas à ce niveau-là, qu'on va découvrir. C'est le Seville Golf Club à trois quarts d'heure de Phoenix, dans l'Arizona. La terre des Suns, Sébastien.
Tout à fait.
Ça, c'est pas l'info. Non, on a hâte de voir le Green on Hill du 17, qui est bon, peut-être pas copié sur le TPC Sawgrass, mais qui pourrait donner un climax assez sympa. Et Dieu sait que ça n'en manque pas de suspense et de retournement sur le LPGA cette saison. On a Lydia Ko, qui est toujours à un point du Hall of Fame. Elle a besoin d'une victoire pour y arriver. On le répète, en jouant les JO de Paris, elle va marquer ce petit point qui lui manque, donc elle va progressivement intégrer le Hall of Fame. Des trucs drôles, Chris Ticker qui retourne au jeu après avoir eu deux enfants et lancé une marque de vin à son nom qui cartonne aux États-Unis, le top 5 mondial qui est là. Donc voilà, de tous les ingrédients.
Et dont Céline Boutier, évidemment, qui fait son qui
et
fait
Agathe
son
Lenné et Perrine Delacour.
Et Céline Boutier qui était en forme en ce début de saison. On espère et on pense de toute façon que ça va continuer. Avant de passer au Bahamas, au Ford Championship, vous, ça vous évoque autre chose, Sébastien ?
Forcément, Ford Championship, pour moi, c'est un nom un peu mythique du golf, tournoi mythique qui se déroulait au Doral, qui avait été notamment gagné par Craig Parry, qui avait mis ce coup de fer incroyable sur le Blue Monster, sur le 18.
Ah, le Blue Monster, ouais.
Et ça fait partie de ces nombreux tournois sur le PGA Tour qui ont été un peu tués par le fait de devenir un WGC, en fait, un championnat du monde. Bon, le fait que Trump rachète le parcours du Doral n'a pas aidé non plus, clairement. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces tournois qui étaient vraiment des moments clés qui semblaient absolument inamovibles du calendrier, et puis quand ils sont devenus WGC, c'est devenu quelque part un tournoi trop gros pour le marché qu'il y avait autour de ce tournoi-là, notamment au niveau local, ce qui nous amène au sujet qui va suivre, mais qui montre que quand vous devenez trop gros et qu'il n'y a pas forcément le marché en face, eh ben, ça peut...
Un gros poisson dans une petite mare.
Exactement. Et ben, voilà, du coup, on perd ce qui était vraiment un grand rendez-vous du Florida Swing à l'époque sur
le Nissan
PGA
Open
Tour.
Avant ou c'est...
Non, c'est
non,
un autre
c'était,
tournoi.
C'était,
Nissan,
c'était en Californie.
Le Nissan Open, oui, tout à fait. C'était à Los Angeles.
Et avec les changements
de sponsor. Honda Classic était, lui, à PGA National.
Les changements de sponsor aussi pour tuer une dynamique de tournoi, ça fait...
Ah bah là, le Ford Championship, il est devenu Ford Championship il y a quelques jours.
Et
hein,
sur le LPGA, c'était le DIO Implant Open l'an dernier, c'était le Série Pack Fur Hills. Ça change tout le temps aussi.
Allez, pour terminer cette émission, donc Al Roumaïan, le patron du PIF, le patron du Live, était aux Bahamas la semaine dernière avec quelques huiles du golf mondial, avec Tiger Woods. Il a joué au golf avec Tiger Woods, mais ça, on s'en moque un peu. Surtout, ce qui s'est passé, ce qui s'est discuté, je ne sais pas exactement comment le lire, c'est l'avenir du golf mondial. Que va devenir le Live, que va devenir le PGA Tour, est-ce qu'il y a moyen de s'associer?
Et est-ce qu'il y avait Malnati
Il y avait Malnati, il y avait ah, Malnati oui. qui y était. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Qu'est-ce que vous avez comme info En ouais. tout cas, sur ce qu'on a vu des joueurs du PGA Tour, ils ont dit que l'ambiance était cordiale, que Al Roumaïan était quelqu'un de fort sympathique, avec une vision du golf. Ça, c'est plutôt bien de voir que les joueurs du PGA Tour, au moins, se sont dit c'est pas le grand méchant loup. Au moins, c'est déjà la première chose positive.
Alors, oui, c'est bien. C'est quand même un peu surréaliste que cet événement-là intervienne maintenant, quasiment un an après la signature du fameux Framework Agreement. Vous dire, mais qu'est-ce qu'on a attendu pour que Tiger Woods, dont on sait en plus qu'en coulisses, avec Cantlay, c'est le principal opposant hein, à ce deal avec le PIF, pourquoi il a fallu attendre autant de temps? En plus, bon, c'est pas comme si Tiger Woods jouait beaucoup de tournois ces derniers mois, donc a priori, il devait avoir le temps de faire une petite partie avec Al Roumaïan avant cette échéance. Donc voilà, on a perdu un peu de temps là-dessus, très peu d'écho. On sait que derrière Jay Monahan et Al Roumaïan, semble-t-il, si on suit la trajectoire de leur jet privé, ont eu un autre rendez-vous peu après.
Ah bah voilà, il y a de l'info, il y a de l'info.
Non, mais effectivement,
ils ont dîné à Chipotle, je crois.
sans doute. non, mais quelque part, c'est la partie de golf peut-être la plus importante de l'histoire du golf pour l'avenir du golf, cette partie entre Tiger Woods et Al Roumaïan. Si Tiger Woods est ressorti de là convaincu qu'il fallait faire ce deal, qu'il fallait avancer, et qu'Al Roumaïan était un interlocuteur de qualité avec qui il fallait discuter, ça change beaucoup de choses.
C'est la conférence de Yalta du golf, en fait.
Un peu, exactement. Et je dirais que de toute façon, ce dont il faut sortir là, c'est de cette incertitude. Je pense que là, ce qui a tué le golf professionnel depuis tant de temps, c'est on ne sait pas si de nouveaux joueurs vont aller sur le Live, on ne sait pas si le PGA Tour va signer avec les investisseurs de Boston, New York, du Strategic Group. Est-ce qu'ils vont signer maintenant avec le PIF? Qu'est-ce que va devenir le Live? Qu'est-ce que va devenir le PGA Tour? Est-ce qu'on garde? Il y a tellement d'incertitudes. On voit que les audiences aux États-Unis sont absolument catastrophiques. Hein, c'est du jamais vu. Les audiences sont en chute libre semaine après semaine. Je pense qu'au contraire, on va voir que le Masters, lui, va cartonner parce que d'un seul coup, on va retrouver tout le monde ensemble, les Rams, les Koepka. Et on a besoin de trouver une résolution le plus vite possible. On sait qu'on attendait un deal avant le Players. La date limite ultime, c'était le Masters, mais on ne voulait surtout pas l'annoncer trop près du Masters. Donc maintenant, je pense qu'on n'aura pas de nouvelles, a priori, avant le Masters. Je pense qu'au Masters, il y aura encore beaucoup de discussions en coulisses. Il faut pouvoir avancer, comprendre quelles vont être les modalités de cette nouvelle entité PGA Tour Enterprise qui porte beaucoup d'espoir hein, pour le golf mondial professionnel. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'on avance à chaque fois avec des tout petits pas.
Au moins, ils se parlent. Les gens se parlent.
Ce qui effectivement est positif. Ça restait un des problèmes.
Ça fait un bout de temps qu'ils se parlent, malheureusement, ça n'avance pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils ne se parlaient pas. Donc au moins, là ils se parlent. Eh bien, écoutez, pour Tiger Woods, pour Al Roumayan, on a un document exclusif qui est sorti sur les réseaux sociaux récemment. Est-ce que Hugo, à la réalisation, peut le montrer? On le voit actuellement. Et alors, ce document, eh ben, ça tombe bien parce que son créateur, son inspirateur, c'est en anglais, hein, malheureusement, bah, il est aussi à l'aise en anglais qu'en français, voire peut-être plus à l'aise en anglais qu'en français. Bah, ça tombe bien parce que son inspirateur, son créateur, il est là, il est avec nous, c'est Sébastien Audoux qui l'a mis sur son compte Twitter. Alors, racontez-nous, vous courez et vous imaginez l'avenir du golf mondial en courant.
Bah, je cours tous les matins, donc j'écoute beaucoup de podcasts sur le golf. Et là, j'écoutais notamment un podcast qui revenait à nouveau sur les propos de Rory McIlroy et surtout de Wyndham Clark. Parce qu'autant de la part de Rory, bon, ça passait, c'est un des joueurs d'élite depuis plus d'une décennie. Pour Wyndham Clark, qui s'est révélé un peu sur le tard en gagnant cette US Open, c'était un peu plus contestable de l'entendre dire bah, « Moi, je suis à fond pour 100 joueurs, la super élite, etc. » Et en même temps, il y a du vrai dans ce qu'ils disent. C'est plus bankable de voir que le top niveau, mais en même temps, on sait que le golf, ce sont les belles histoires, c'est de voir tous ces joueurs émerger.
Un Mathieu Pavon, tous les autres.
Un barman qui gagne sur le PGA Tour.
Voilà, ces systèmes très ouverts. Rich Beam qui vendait des téléphones peu de temps avant de gagner le PGA Championship. C'est la beauté du golf. Comment on conjugue ça et le top niveau mondial? Donc je me suis mis à penser à ça, comme je cours assez longtemps, modestement, j'ai eu le temps d'un peu creuser le truc et je me suis dit, bon, soit je garde ça pour moi, soit je me tape la honte en le mettant sur papier.
Et après, Arnaud va avoir la gentillesse de le diffuser à plus large
exactement. En fait, t'es un mélange de Rain Man et de Forrest Gump.
Un peu, c'est ça. C'est un bon résumé.
Bon, et alors, bon, pour ceux qui nous écoutent hein, sur le podcast de l'équipe.fr sur Swing et qui n'ont pas la télé, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les grandes lignes de cette vision audouesque?
Alors, donc je me suis dit, l'élite, c'est très bien. Pourquoi on les ferait pas jouer sur 54 trous? Après tout, quelque part, le livre a entrouvert la porte à cette nouvelle norme.
Hein. Je vais quitter la pièce.
Voilà, je sais que ça vous irrite profondément. Pas autant que la perspective de pouvoir se dégager d'un divo sur le fairway, mais quasiment.
Et là, on va sans cut.
donc moi, il y a un cut hein, quand même. Il y a beaucoup de cuts d'ailleurs. Mais donc, on pourrait faire un tournoi sur 54 trous du vendredi au dimanche avec le top élite autour de 70 joueurs et puis faire des qualifying series du mardi au jeudi, un autre tournoi sur 54 trous où là, qui est beaucoup plus ouvert, où on ouvre la porte même top 5 de la semaine précédente sur le DP World Tour, les bons résultats du Korn Ferry. Le but, c'est d'avoir un maximum d'ouverture sur les autres tours, les autres joueurs, de leur permettre de jouer ces qualifying series. Et si vous êtes dans le top 10 des qualifying series, et ben vous avez le droit de rester et de jouer le tournoi principal du vendredi
au
dimanche.
Vous faites 6 tours.
Bah, au total, il y a 6 tours. Mais là, normalement, c'est deux tournois vraiment séparés qui se jouent au même endroit.
D'accord, mais vous pouvez faire 6 tours si vous vous qualifiez.
Si vous vous qualifiez, vous faites 6 tours. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment, je veux dire, celui qui gagne les qualifying series, il a son trophée, il a gagné un tournoi, mais quelque part j'essaie de rapprocher au maximum l'élite du reste des joueurs en les faisant jouer le même parcours la même semaine.
Et produit par la télé, c'est...
Ah bien sûr, bah, l'idée c'est aussi que ça règle une partie du problème de revenus actuel du golf mondial parce qu'on crée une nouvelle série de droits, on donne plus de valeur aux sponsors. Dans mon idée, il y a aussi un truc qui va en faire hurler beaucoup, de laisser une large place aux amateurs, à la fois les VIP invités par le sponsor, mais aussi des joueurs lambda qui pourraient se qualifier en
Plus que de l'Alliance.
Les amateurs, ils jouent quelque part leur tournoi, ils le jouent juste en même temps que les pros, mais on pourrait qualifier des joueurs même avec des handicaps assez élevés. Je trouve que ce serait assez drôle personnellement
Et les montrer à la télé
pourquoi pas.
On imagine Jean-Philippe Redenburger, hein.
Ou Sébastien
Audoux, quoi.
Voilà. Se moquer des Gérard et des Marie Gigi, y a que ça de vrai. Hein.
L'idée étant d'avoir deux tournois avec des champs finalement assez réduits, laissant de la place aux amateurs, qu'on n'est pas non plus obligé de montrer tout le temps à la télé. Hein. Je demande pas à en faire.
Non, juste quand tu fais des mauvais coups.
De Beach, voilà, par exemple.
Et quid du Tour européen et des autres circuits
Le Tour européen, les autres circuits continuent d'exister. Et encore une fois, au lieu d'avoir une ouverture.
Et le Masters, ils sont d'accord vous en avez parlé
Le Masters, il se joue comme les autres majeurs sur 4 tours, d'accord. De manière classique. Et là, c'est uniquement pour le Tour.
C'est pour le PGA Tour, ça.
L'exemple que je prends, c'est le tennis, où les majeurs, ils ont un format plus long que les tournois lambda. C'est très bien comme ça. Et tout le monde apprécie de voir quelque part le format classique du tennis à l'occasion des majeurs. Bah, c'est un peu la même chose avec
le golf. Je ne sais pas si j'aurais raison de sortir ce document parce que je vous adore, Sébastien. C'est une vision d'horreur, votre.
Alors après, il y a plein d'autres propositions. Hein. Je propose notamment de
arrêtez
faire
de
jouer,
courir, Sébastien.
De faire jouer systématiquement les majeurs hommes et femmes back-to-back comme on a fait à Pinehurst en 2014, où on avait joué l'US Open hommes et femmes dans la foulée. Je propose de systématiser ça, de transformer le live en tournoi mixte par équipe en match-play à raison de 5 fois par saison, par exemple.
Vous avez un dossier comme ça.
De faire jouer la Solheim Cup.
Il court très longtemps.
De faire jouer la Solheim Cup et la Ryder Cup en même temps.
Vous avez réfléchi à tout.
De créer un syndicat des joueurs pour justement régler. Pour moi, c'est absolument essentiel.
À Fontainebleau, on cherche du monde. Vous allez venir nous organiser nos compétitions.
Pour moi, c'est absolument essentiel que les joueurs soient représentés comme dans les autres ligues par un véritable syndicat qui puisse négocier. Parce que c'est important que les joueurs aient une voix au bord du PGA Tour. Mais est-ce qu'il faut que cette voix-là,
golfeur de gauche,
est-ce qu'il faut que cette voix-là soit celle de Webb Simpson et Peter Malnati? Pas sûr. Ce qui se passe, par exemple, pour les syndicats de joueurs dans les autres ligues américaines, c'est que ça peut tout à fait être des businessmen qui sont nommés par les joueurs pour les représenter face, justement, alors dans les autres ligues, c'est face aux propriétaires des équipes. Et c'est ce rapport de force qui fonctionne beaucoup mieux que je pense les joueurs devraient avoir, d'autant qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'avoir une sorte de syndicat mondial qui représente aussi bien les joueurs qui sont sur le DP World Tour que sur le PGA Tour que sur les autres tours.
On n'a jamais eu de lockout dans le golf.
Non.
Contrairement au baseball, au basket.
Lorsque le PGA Tour s'est créé, quelque part, parce que rappelons quand même que le PGA Tour est une émanation pirate de la PGA of America à l'origine. Mais y compris, moi je trouve, auprès des instances, on a entendu beaucoup les joueurs donner leurs avis, qu'on y a un changement de règles. Autant qu'il y ait un syndicat qui les représente, y compris auprès du Royal et Ancien, auprès de l'USGA, auprès de tous les majeurs pour décider des critères de qualification aussi, ça évitera les trucs qui se passent bizarrement, on ne sait pas où, comment. Donc pour moi, c'est aussi essentiel dans le modeste projet que j'ai proposé. Je m'attends pas à ce que ce soit implémenté dès l'année prochaine sur les tours. Ce que je prétends, en revanche...
Bah, vous l'avez formulé, quand même.
Moi, j'ai mis un like sur Twitter.
Non, en revanche...
Moi aussi, je crois.
En revanche, je pense que le golf professionnel a aussi besoin, quelque part, d'un peu d'ouverture d'esprit sur une nouvelle structuration.
Vous êtes en train de me traiter de vieux crouton, Sébastien.
Alors, le golf et l'ouverture d'esprit, par
pas du tout. Je sais que certains voudront me passer sur le corps pour avoir eu l'idée de briser ce système en 4 tours classiques. Et encore une fois, moi, je suis pour qu'on puisse se dégager gratuitement d'un divo sur le fairway. Hein.
Ouais, mais McIlroy, vous répondrez « play better
ouais. ». Oui, bah, « play better », mais encore une fois, ce qu'il faut, c'est permettre un maximum... Là, dans mon idée, aujourd'hui, si vous voulez, bon, déjà, vous jouez sur le Challenge Tour pour arriver sur le Tour européen. Bon, il faut gagner pour avoir une promotion immédiate, voilà. C'est déjà pas facile. Et puis, quand vous gagnez votre carte sur le PGA Tour via le DP World, bah, c'est à la fin de l'année, donc vous jouez l'année suivante. Ça se trouve, vous n'êtes plus du tout en forme alors, au moment où vous allez avoir votre carte sur le PGA Tour. Tout ça a beaucoup d'inertie. L'idée de ma structure, c'est de permettre beaucoup moins d'inertie. Vous jouez bien, bah tout de suite, même si vous êtes sur le Corn Ferry, vous allez sur les Qualifying Series. Et vous jouez bien la semaine d'après, bah direct, vous êtes sur le PGA Tour, ce que j'appelle les FedEx Series. Et là, vous pouvez d'un seul coup défier les meilleurs du monde.
Oui, mais il y a les Monday Qualifiers qui existent déjà sur le PGA Tour.
Oui, mais les Monday Qualifiers,
c'est un peu la loterie,
C'est un peu la loterie. Il y a des Monday Qualifiers où vous vous retrouvez avec des champs où il y a 5 anciens vainqueurs du PGA Tour, comme historiquement les qualifs du lundi à PGA National, par exemple, qui sont les plus relevés de la saison hors majeur. Tout ça, encore une fois, est quand même extrêmement limité. Il y a peu de place. Moi, mon système permet d'avoir beaucoup plus d'ouverture vers les autres tours, beaucoup plus d'ouverture de semaine en semaine pour des nouveaux joueurs et de ne pas être dans un espèce de circuit fermé là, qui croupit un peu avec les audiences que l'on voit aujourd'hui qui sont assez pathétiques.
Vous mettez quand même le PGA Tour au centre de tout puisque le Tour européen continue à exister et qu'il n'y a que le PGA Tour qui a cette... Qui a ce fonctionnement-là.
Ce qui est un peu le cas déjà. Alors.
Oui, mais c'est ce qui est dommage quand même.
Ah, mais alors après, je parle aussi du fait que dans l'idée de ce tour-là, on passerait dans un module de circuit international où certains tournois du DP World Tour deviendraient des tournois de cette
nouvelle structure. Ah, quand même, merci monsieur de penser au golf européen. Quand
ah,
même.
Mais bien sûr, non, mais non seulement je pense qu'il faut à peu près, voilà, si on fait 40 tournois, je pense qu'il en faut 25 aux États-Unis, 15 en Europe, enfin 15 internationaux hors des États-Unis, ça me semble être vraiment le minimum. Et effectivement, ça c'est important. Donc après, il y a effectivement une deuxième division qui se crée, que vous appelez comme vous voulez, ou plusieurs autres divisions inférieures qui seraient l'ancien, les restes du DP World Tour, du Korn Ferry et tout ça, mais qui encore une fois peuvent accéder chaque semaine au meilleur niveau mondial disponible, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, sauf effectivement via les Monday Qualifiers. Mais sur les signatures et ventes, il n'y a pas de Monday Qualifiers aujourd'hui. Non. C'est uniquement fermé.
Je pense qu'on a perdu la moitié de notre auditoire.
Il faut qu'il regarde le diagramme, il y a des jolies couleurs en tout cas. C'est assez bien fait.
Bon voilà, en tout cas, s'il y a des promoteurs intéressés, vous écrivez au Journal du Golf, on vous transmettra les coordonnées de Sébastien Audoux. Bonne chance hein, Sébastien pour...
Jay, si tu m'écoutes, voilà, écoute, je suis là.
Si tu le regardes.
Voilà, ou Pascal Grisot, dont vous êtes le conseiller spécial, c'est lui qui nous l'avait confié. Ici, Pascal, hein, si tu veux bouleverser le golf mondial, et ben voilà, tu connais Sébastien et t'as son numéro, donc n'hésite pas. En tout cas, merci Sébastien d'être venu. C'est toujours aussi passionnant de vous écouter. Vous êtes toujours aussi bien informé. Vous êtes toujours le bienvenu ici.
Merci. Donc bah du coup, je sais pas hein, qu'est-ce qui va me venir à l'esprit la prochaine fois que je vais courir, mais je viendrai vous en parler.
Bah, voilà, vous serez le bienvenu ici. Merci Benjamin.
Des nouvelles règles peut-être pour le golf. Ça vous fera plaisir.
Ah non, pas les règles du golf. Touchez pas aux règles du golf, Benjamin. Laissez l'USGA et le RNS s'en occuper. Merci Benjamin de m'avoir aidé à animer et préparer cette émission. Et merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. Salut à tous, bye bye.